prenez un kilogramme kartoffeln.
Für wie viele Personen?
Ça dépend, pour 6 personnes normales ou alors pour une personne normale, une grosse personne. Un kilogramme kartoffeln. Un liter Milch. 3 Eier. 90 Gramm Butter. Salz. Und Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller!
Ce soir, nous avons la chance de recevoir le cuisinier Alain Passard. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ne riez pas, ça sera Vegetable des Beach Boys.
I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so
in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the
Le goût de l'enfance, Alain Passard.
Les coquillages.
Lesquels?
Palourdes, praires, les coques, coquilles Saint-Jacques.
Vous alliez les pêcher vous-même?
Absolument, oui.
Avec votre petite épuisette?
Avec l'épuisette, et puis après, avec la grand-mère, on les mettait dans la casserole, avec une toute petite pointe de curry, persil. Ça, c'était son harmonie favori.
Alors justement, parlons de votre grand-mère, puisque c'est elle qui a décidé de tout pour vous, j'ai l'impression.
C'est vrai qu'elle a été déterminante, parce que bon, elle avait vu certainement en moi bon, mon petit côté un peu gourmand. Et c'est vrai qu'elle avait un cahier de cuisine assez impressionnant. Ma grand-mère n'était pas un grand saucier, c'était un très grand rôtisseur. C'était une femme de feu, maîtrisait la flamme comme personne. J'ai jamais vu quelqu'un qui maîtrisait le feu comme ça. Elle était toujours à travailler ses cinq sens. C'était l'oreille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de thermostat. C'était le four à bois. Donc, c'était vraiment la porte du four qui faisait office de thermostat. Il fallait savoir quand on ouvrait la porte du four, quand on tournait le plat pour que ça soit coloré un petit peu partout. Et puis, femme d'émotion, quoi. Bon, très proche de ses petits-enfants et... Oui, elle m'a laissé ce goût pour la cuisine que j'ai depuis toujours, et puis ce regard qu'elle avait sur les produits, sur les saisons surtout, très important pour elle, et puis sa joie de vivre.
Elle-même, elle avait appris la cuisine comment et de qui?
Sa maman. Sa maman était également une très bonne cuisinière. Elle nous en parlait souvent. Ça faisait partie de sa vie. Elle n'avait pas de restaurant, mais je pense que si elle avait eu un restaurant, ça aurait été une des très bonnes tables de la région. Parce que au-delà de faire la cuisine, elle aimait recevoir. Elle faisait des tables merveilleuses. Quand elle nous recevait chez elle, c'était toujours ce qu'il y avait de plus beau dans ses armoires. le nappage, les couverts, les verres, les assiettes. C'était toujours une table fleurie. Il y avait une vraie générosité, beaucoup d'élégance et de délicatesse dans ce qu'elle faisait.
Et aujourd'hui, vous pensez, vous qui êtes triplement étoilé, reconnu dans le monde entier, que être un grand chef, ça veut dire aussi savoir bien recevoir avec toute l'ornementation, les nappes, le cristal, le cérémonial, ou est-ce que être un grand chef, c'est savoir faire la cuisine, tout simplement?
Non. Quand on regarde un petit peu, si vous voulez, tous les grands chefs aujourd'hui, ce sont tous des personnages, hein, qui ont justement cette qualité supplémentaire de savoir justement accueillir. Les grands chefs ont tous énormément de goût, dans les couleurs, dans le choix des tissus, dans les brillances, dans les transparences des verres et tout.
Ça, vous dites ça parce que vous êtes artiste vous-même, mais on n'a pas besoin, pour être reconnu comme grand chef, de savoir jouer du saxo, être sculpteur soi-même. On peut aussi être très bon devant ses fourneaux, et basta, non ?
Bien sûr, absolument. Moi j'ai eu une chance fabuleuse dans mon enfance, c'est de grandir dans une famille très artistique. Donc avec cette grand-mère cuisinière, j'avais un père qui était musicien, j'avais un grand-père qui sculptait le bois, qui travaillait l'osier, qui était vannier, qui était rotinier, qui travaillait le rotin à merveille. Une mère passionnée de couture, donc si vous voulez, une famille où la main, enfin le geste bien sûr, mais où les cinq sens étaient sans arrêt sollicités.
Et le geste de la main importé.
Oui, la main a pris un peu sur le dessus. Bon, le goût aussi bien sûr en cuisine, les parfums, le visuel déterminant, ça va regarder dans le fond de la casserole.
Mais au moment où votre grand-mère vous initiait sans le savoir aux joies de la cuisine, Alain Passard, la cuisine n'était pas considérée comme aujourd'hui, comme faisant partie du monde de la culture, comme un grand art avec un A. Aujourd'hui, les grands chefs sont les rockstars d'aujourd'hui. Ils sont véritablement les véritables vedettes, comme on disait autrefois des chanteurs du temps des yéyés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, quand vous étiez un gamin, pour que vous choisissiez cet art et que vous le découvriez et que vous l'assumiez comme une discipline artistique?
Ah, écoutez, j'ai été, cette histoire avec la cuisine, c'est bon, au-delà de la grand-mère, bien sûr, mais c'est une rencontre merveilleuse. J'ai grandi dans un petit village, en Bretagne, qui s'appelle la Guerche de Bretagne, qui était à l'époque, un peu moins aujourd'hui, malheureusement, comme dans beaucoup de villages, qui était un village très gourmand. Très gourmand, pourquoi ? Parce que dans ce village, il y avait 3 ou 4 très très bons boulangers, il y avait 2 très grands pâtissiers, il y avait 3 ou 4 très belles tables, il y avait des charcutiers, il y avait des bouchers, il y avait tous ces métiers de bouche que je regardais avec énormément d'interrogations. Et en plus de ça, j'habitais dans une rue. Et la maison de mes parents était ceinturée par un des grands pâtissiers et il y avait un petit restaurant qui était à côté. Donc si vous voulez, ma chambre était collée au fournil, au laboratoire du pâtissier. Donc je vivais au rythme des parfums, des bruits également du pétrin qui battait la brioche comme ça. Ça me réveillait presque la nuit et... j'étais fasciné par la tenue de ces jeunes marmitons, de ces jeunes pâtissiers, de ces jeunes cuisiniers, avec cette merveilleuse veste blanche, très élégante, ce pantalon pied de poule, cette toque et ce calot. Et donc, je les voyais, puisque je vivais avec eux, quand ils avaient un moment de coupure, donc ils sortaient, et donc ils étaient dans la rue, et moi j'habitais. Et donc, je dialoguais énormément avec eux, et je crois que j'ai fait mon choix très vite, je devais avoir 12-13 ans, quoi. Et j'ai voulu porter ce costume de cuisinier très tôt. Je ne savais pas, bien sûr, à l'époque, puisque c'était au début des années 70, que la cuisine allait devenir une aventure.
Vous êtes entré en cuisine, vous aviez 14 ans, Alain Passard. Oui. Est-ce qu'on peut dire entrer en cuisine, comme on dit, entrer en religion? Parce que votre vie a bifurqué, votre emploi du temps, vos goûts, vos préoccupations, votre désir de vous dépasser vous-même, tout a basculé. Vous n'étiez plus comme le reste de vos copains.
Absolument. J'ai quitté toute cette, j'ai quitté tous les camarades. Et puis, bah, à 14 ans, je vivais seul, hein, parce que bon, mes parents donc ont trouvé un restaurant pour me faire faire cet apprentissage, qui était quand même à 50 kilomètres de la Guerche. Hein, donc j'avais ma chambre, je vivais chez moi. J'étais totalement indépendant, quoi.
Et on vous a mis à la plonge au début?
Non, pas du tout.
À l'épluchage?
Non, pas du tout, parce que j'ai eu une grande chance dans ma vie de cuisinier, c'est de faire une rencontre merveilleuse à 14 ans, une rencontre avec un très grand chef qui est Michel Kerrever. Et Michel Kerrever avait à l'époque donc l'hôtellerie du Lion d'Or à Liffré, un petit village à côté de Rennes. Et donc c'était à l'époque... une des grandes tables de Bretagne, chef étoilé déjà en 71 puisqu'il avait une étoile, et donc c'est une rencontre qui a changé ma vie, hein, parce que il m'a appris à faire la cuisine comme peu d'apprentis pouvaient le faire, parce que également grand technicien, vraiment un très grand cuisinier, un chef qui avait énormément de caractère, mais on apprenait à saisonner, on apprenait à griller, on apprenait à rôtir, on apprenait à acheter un poisson. Et pour moi, ça a été, si vous voulez, le début de l'aventure. Si je ne sais pas si j'avais fait un autre apprentissage que le sien, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui.
Il vous a choisi. Il a découvert en vous tout de suite, enfin très rapidement, vos propres possibilités.
Oui, il a vu que j'étais déterminé par rapport à ce métier. Il a senti que j'aimais ces ambiances de cuisine, que j'aimais ce qu'on appelle un peu le service, le coup de feu, très très tôt. On passait des moments merveilleux parce que j'ai compris très tôt que j'étais tombé dans une grande maison.
Ça veut dire quoi, une grande maison?
Une maison où, justement, il y avait des produits qui étaient de qualité. Il y avait des gestes de qualité. Il y avait, à travers ce chef, des moments de grâce. Parce que il me faisait profiter de tout ce que lui a vécu. C'est un monsieur qui a quand même été dans des grandes maisons, comme le Savoy à Londres, ou le Royal à Évian. Donc, si vous voulez, il était chef potager au Royal d'Évian. Je peux vous dire que c'était des maisons où, chef potager, quand il vous racontait ses services, il y avait 17 potages au quotidien. Hein, des potages taillés, des veloutés, des crèmes et tout. Et donc, si vous voulez, j'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais dans son savoir-faire.
On va pas rester dans la nostalgie avec vous, Alain Passard, parce que vous êtes un homme du futur et du goût de l'avenir, mais on va quand même avoir la joie de découvrir Colette. Vous saviez qu'elle était gourmande, Colette?
Oui.
Ah,
oui.
Vous le saviez. Et oui. Vous l'avez déjà entendu parler de cuisine?
Non.
Eh bien, je vous propose de l'écouter. Elle va parler des tartes de légumes. Il paraît que c'est vous qui les avez inventées. Eh bien non, elle aussi. Archive INA du 6 mars 1950, au micro d'André Parineau.
Quand on pense que ça ressortit à une gastronomie campagnarde que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas. Comment la tarte aux épinards, la tarte à la citrouille, la tarte aux poireaux frais, la tarte à tous les légumes, et quant au chocolat grillé devant le feu de bois ou le feu de charbon, je ne sais pas, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille, le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
Alors, je ne sais pas comment on fait le chocolat grillé alors là, à la manière Colette.
Oui,
hein.
Oui, ouais, c'est, je vois pas, oui, donc...
On fait chauffer le chocolat devant le feu et puis on attend que ça coule et on mange, on déguste peut-être.
Mais c'est appétissant, hein, chocolat grillé... Comment
les tartes aux légumes aussi, Alain Passard.
Légumes,
vous vous faites plus sophistiqué, mais c'est appétissant ce qu'elle dit.
Absolument, j'ai bien aimé la gastronomie campagnarde. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Comme quoi, avec des produits simples, on peut faire des plats à la fois très simples et très savoureux.
Oui, mais alors on va parler de votre jeu, votre maîtrise, votre patte artistique, votre sophistication. Mais on va peut-être revenir sur ce que disait Colette. Elle dit quelque chose d'assez incroyable. Elle dit je connais tout ça depuis ma naissance. C'est un savoir ancestral. Or, on sait bien que la cuisine, c'est une technique, c'est un mode de vie, c'est un mode d'approvisionnement, c'est un mode de production, puisque vous en êtes le témoin le plus magistral, puisque vous-même, dans votre propre restaurant, eh bien, vous nous faites déguster que des produits que vous élevez vous-même.
Absolument.
Donc, on voit bien que c'est une bulle, c'est un monde, c'est un univers où tout doit être complètement surveillé. Alors, ce savoir ancestral, vous y croyez encore aujourd'hui en 2019 ?
Oui, vraiment. Et je lutte au quotidien pour remettre les saisons à leur place. Hein, parce que je trouve que la nature a écrit une poésie qui est d'une beauté merveilleuse. Et je crois que c'est important de considérer que chaque produit dans un jardin a sa mission, a son rôle. Que pourrait-on écrire sur une tomate si on devait écrire un message ? On pourrait écrire « Je suis un ver d'eau » ou un concombre. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce ver d'eau, on nous le propose en plein hiver. Non, une tomate, c'est fait pour se désaltérer en été quand il fait 30 degrés, mais pas au mois de janvier quand il fait 0 degré. Vous voyez cette notion, on se désaltère en été, on se réchauffe en hiver. La nature n'a jamais écrit qu'il y avait des tomates dans un jardin au mois de janvier. Jamais.
Alors écoutez, j'ai été faire le marché en bas de chez moi deux fois par semaine, pas plus tard que tout à l'heure, et il y avait plein de tomates.
Ah oui, mais c'est le problème, il est là, si vous voulez, c'est qu'il faut accepter qu'une saison disparaisse. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Quand vous n'avez pas touché une tomate depuis un an, de la retrouver, il faut l'accepter. Et en plus de ça, les produits que l'on trouve sur les marchés aujourd'hui, qui sont des produits qui viennent de Hollande, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Espagne, sont des produits qui sont hors sol, qui sont hors saison, avec des traitements très appuyés. Ça n'a aucune saveur, ça n'a aucun parfum, la texture n'est pas là. Ce n'est pas le temps des tomates. Le temps des tomates, c'est juillet, août, septembre. Allez, quand l'arrière-saison est belle, ça peut être jusqu'à mi-octobre. Après, c'est terminé.
Donc on vit avec des fantômes de nature ou des substituts de nature qui nous sont proposés par le commerce international.
Malheureusement, je...
Qui ne fait qu'augmenter.
Mais oui, voilà, je ne comprends pas. Nous sommes quand même la France, pays des grands vins. C'est le pays des grands fromages. Nous avons quand même un des plus beaux terroirs du monde. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que 80% de notre consommation légumière vient d'un autre pays.
80%.
Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas, la place. C'est quoi le problème ? On n'a pas la place. Je comprends pas très bien cette démarche. Il y a un moment où il faut que l'on échange avec les responsables de ces aventures, un peu quand même. Remettons l'hiver à sa place, printemps, l'automne. En hiver, il n'y a rien sur la branche. En hiver, on est dans le racinaire. Pour se faire une bonne soupe, un bon gratin, un plat chaud, pour se réchauffer. Vous savez, il y a un moment où on parle santé quand même. Hein, l'organisme a besoin de nuances. Et alors, en l'occurrence, quand on nous invite en plein hiver à savourer une tomate, un concombre ou un melon, ça paraît impensable. Là, j'appréhende Noël, ça va être le festival. Donc là, dans toutes les épiceries fines, vous aurez les cerises qui viennent du Chili ou du Pérou, vous aurez les pêches, voyez, donc voilà. Et le consommateur est dans une telle confusion que le consommateur va acheter.
Je vais vous proposer la pomme de terre, elle s'impose en cette saison, mais la pomme de terre de Francis Ponge, écoutez.
Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenue par les autres doigts de la même main, l'on saisit, après l'avoir incisé, par l'une de ses lèvres ce rêche et fin papier que l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L'opération, facile, laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s'y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible. Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux à l'oreille et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. Il semble à reconnaître la perfection du fruit nu, sa différence, sa ressemblance, sa surprise et la facilité de l'opération, que l'on ait accompli là quelque chose de juste. Dès longtemps prévu et souhaité par la nature, que l'on a eu toutefois le mérite d'exaucer. C'est pourquoi je n'en dirai pas plus, au risque de sembler me satisfaire d'un ouvrage trop simple. Il ne me fallait, en quelques phrases sans effort, que déshabiller mon sujet en contournant strictement la forme, la laissant intacte mais polie, brillante et toute prête à subir, comme à procurer, les délices de sa consommation.
Nous venons d'entendre la voix de Francis Ponge, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'une pomme de terre pour vous ?
Ah, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre comme peut l'être un navet. Vous savez, quand je tiens une pomme de terre dans la main...
Laquelle ? Parce qu'il y a plein de variétés.
Oui, j'aime bien la bleue de la Manche, qui est une pomme de terre.
Ah ouais.
Oui.
La vitelotte ou...
Vitelotte aussi, c'est très bon, ouais. C'est des pommes de terre qui sont très savoureuses, qui ont des parfums, des textures remarquables et qui se prêtent à de nombreuses recettes. Mais vous savez, quand je dis effectivement que la nature a écrit une poésie merveilleuse, mais en ce moment, vous avez des choses fabuleuses. On a sorti des navets de terre hier, mais ils étaient d'un mauve éclatant, feu, quoi. Un mauve feu, c'était d'une fraîcheur. Et j'aime les prendre dans la main comme ça et les regarder, les contempler, quoi, et essayer d'avoir un échange avec eux et d'essayer de leur dire que je vais essayer de faire quelque chose de délicieux, merveilleux.
Certains parlent aux arbres, vous, vous parlez à vos navets, à vos pommes de terre, à l'impasseur.
Il faut avoir un échange avec, il y a un côté artistique dans le végétal qui est insoupçonnable, c'est, on peut aller tellement loin et surtout tout reste à faire avec le végétal. C'est une cuisine qui a été très peu approchée. Donc moi j'aime un petit peu la dualité entre un navet et un copeau de beurre salé. Essayer de trouver le bon tempo entre les deux de façon à avoir l'accord parfait. C'est une cuisine qui nous procure énormément d'émotions, qui nous rapproche à la fois de la couture, qui nous rapproche de la peinture avec les saisons et les couleurs. La main du cuisinier, quand elle est légumière, peut être une main artistique.
Vous l'avez montré, vous l'avez démontré. Vous continuez à vivre sur ce changement de cap que vous avez opéré maintenant il y a de nombreuses années. C'était au moment de la vache folle, parce que vous parliez de l'âge de vos 14 ans, de ce chef qui vous avait initié à la grande cuisine. Vous l'avez pratiqué, cet art de la grande cuisine, ça impliquait aussi bien la viande que les poissons, etc.
Ouais.
Et puis il y a eu l'histoire de la vache folle. Et là, à ce moment-là, que s'est-il passé à l'intérieur de vous ? Est-ce que c'est l'homme engagé dans son métier qui a réfléchi en se disant « Eh bien moi, je vais inventer un nouveau type de cuisine » en ne proposant plus de viande à l'intérieur de mon restaurant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu comme une illumination artistique en se disant « je vais réhabiliter la nature et inventer un nouveau type de cuisine ».
Alors c'est un mélange, c'est une conjugaison des deux en réalité. Donc vous savez, j'avais le sentiment d'être allé au bout de cette cuisine animale, parce que l'arpège c'était... une rôtisserie, hein. On venait à l'arpège pour le tissu animal, la côte de bœuf, le casier de veau, le gigot d'agneau. On a d'ailleurs eu 3 étoiles en 96 avec la cuisine animale, hein, essentiellement. Mais j'avais le sentiment d'être allé au bout de cette cuisine, d'avoir lu la dernière page. Et j'avais envie d'offrir à mes sens une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. La vache folle a été quelque chose pour moi de très très douloureux. Ça m'a laissé une amertume profonde. J'avais totalement ignoré le végétal pendant 25 ans.
C'était ce qu'on appelait un accompagnement.
La garniture. Je n'avais jamais adressé la parole à un poireau.
Tandis que maintenant, vous lui parlez en tête à tête tous les matins.
Là maintenant, quand je vois un poireau, mais c'est un véritable rendez-vous. Il y a une beauté dans ce dégradé de blanc et de vert céladon qui est tellement beau, quoi. Et le toilettage du poireau est déjà un acte artistique. Le couper, le préparer, le regarder, le sentir, et ensuite lui faire son petit bain. Après, vous le ressortez, vous savez, avec les mains, comme ça, pour laisser tout le petit sable au fond du légumier, et vous le jetez dans la casserole, avec le petit copeau de beurre salé, et la conjugaison entre l'eau de végétation du poireau et le beurre va se faire. Et là, on est dans un espace artistique. Il y a des gestes très très beaux. C'est d'une précision redoutable. Et donc j'ai voulu ouvrir la porte à cette cuisine légumière que j'avais ignorée parce que j'aime la couleur. La couleur me repose. J'avais quelque part envie de changer de métier.
Et vous avez changé de métier.
Et j'ai changé de métier, ouais. Parce que c'est un autre métier. C'est une autre aventure.
Vous parlez de couleur, Alain Passard, et c'est vrai que votre cuisine se caractérise non seulement par votre inventivité en termes de texture, en termes d'invention aussi, de goût, par la juxtaposition de ce que vous nous proposez dans une seule et même assiette. Votre cuisine se distingue aussi parce que ce qu'on voit arriver dans l'assiette ressemble à une œuvre d'art. C'est d'ailleurs tellement beau qu'on a du mal à mettre la fourchette ou la cuillère à l'intérieur de cette assiette parce qu'on sait qu'on va détruire cette composition. Je vous propose d'écouter la voix d'un grand historien que vous connaissez peut-être, spécialiste de la couleur. Il s'appelle Michel Pastoureau et il va nous parler du vert de la nature.
Pour nous, la nature est verte, mais ça n'est pas vrai pour les Romains, ni pour les gens du Moyen-Âge, et même de la Renaissance. La nature, elle a beaucoup de couleurs, parce que la nature, ça n'est pas seulement la végétation. La végétation, c'est un petit élément de la nature. Mais la nature, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, c'est le feu, c'est les quatre éléments. Donc la nature a au moins quatre couleurs. Et puis dans le courant du XVIIIe siècle, et surtout à l'époque romantique, nature et végétation finissent par devenir synonyme, et donc la couleur du monde végétal, le vert, devient aussi la couleur de la nature, et la seule couleur de la nature, idée sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui très fortement.
Nous vivons sur cette idée, Alain Passard, mais pas vous, parce que vous, selon les saisons, vous déployez toute une batterie de couleurs par les matières que vous choisissez, mais aussi par les associations que vous allez imaginer.
Bien sûr, c'est comme le cuisinier est à l'image un peu des grands peintres. Quand le peintre peignait l'automne, l'automne avait ses couleurs. Quand il peignait le printemps avait ses couleurs. Et nous, en cuisine, c'est exactement la même chose. Vous savez, on a trop tendance aujourd'hui à mettre dans la casserole l'hiver avec l'été.
Ça veut dire quoi, mettre l'hiver avec l'été dans la casserole?
Mettre les produits de l'été avec les produits de l'hiver. Et ça ne marche pas. La nature a pensé à tout. Hein, ces harmonies que les saisons nous offrent sont déjà écrites. Au printemps, vous allez conjuguer asperges, petits pois, fèves, légumes nouveaux. Les accords sont faits. L'été, vous allez faire la tomate, la courgette, l'aubergine, le poivron, les accords sont faits. À l'automne, vous allez jouer avec les châtaignes, vous allez jouer avec les endives, le céleri rave. Les accords sont faits et en hiver, vous avez tout le racinaire. Une tomate dans une casserole de janvier ne peut pas fonctionner gustativement et olfactivement.
C'est la nature qui nous gouverne. Il suffit de lui obéir.
La nature a tout écrit. Le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature. Moi, c'est le seul bouquin que j'ouvre tous les matins.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Alain Passard, Dexter Gordon. Thank you.
Vous savez tout faire, y compris jouer du jazz.
Ah, c'est un autre rendez-vous, celui-ci, effectivement, mais je reste dans le cuivre. Hein.
C'est pas le même cuivre.
C'est pas le même cuivre, mais je reste dans le cuivre. C'est un moment que j'aime beaucoup parce que je me mets un petit air le matin comme ça dans la tête et que je garde toute la journée. Et puis c'est offrir à mes sens, à mes doigts, une autre histoire.
Avez-vous l'impression qu'encore aujourd'hui vous découvrez de nouvelles choses ? On le sait, votre carte change. Et donc, de nouvelles propositions nous sont offertes. Mais à l'intérieur de votre fonctionnement, de l'imaginaire et de l'immense technicien que vous êtes devenu, de la nourriture, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez encore aller plus loin ?
Ah oui, j'espère. J'espère bien sûr qu'on va encore trouver de nombreuses belles recettes. Je ne veux pas offrir en été à une courgette un espace créatif encore plus grand.
Ah, vous offrez aux courgettes, pas à nous.
Ah bah,
vous offrez d'abord aux courgettes.
Ah, toujours, ouais. Ah ouais, toujours, ouais. Et je sais pas, faire à l'automne faire de l'endive, une sorte de chef-d'œuvre en l'harmonisant avec une pomme, une poire. Je crois, vous savez, la cuisine est un solfège inépuisable. Et comme je vous le disais, je pense que tout reste à faire avec le végétal. Et je me régale parce que bon. J'ai quand même quelques années de métier et chaque jour est le premier jour. Il n'y a pas de lassitude. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de lassitude ? Parce que je respecte les saisons et que tous les 3 mois, j'offre à mes sens un nouveau cahier de cuisine.
Alors ça veut dire que vous laissez aussi, comme le faisaient les paysans autrefois, vos terres en jachère.
Bien sûr.
Et vous vous mettez en retrait aussi, vous avez besoin de ce temps-là.
Vous savez, on ne s'imagine pas ce qu'un sol peut donner après une récolte de céleri rave, par exemple, ou de betterave. Vous savez, les radicelles, un céleri rave peut rester entre 3 et 4 mois dans le sol. Les radicelles du céleri vont aller puiser tout ce qu'il y a dans la terre pour se nourrir, pour prendre des saveurs et des parfums, pour prendre de la texture. Mais après une récolte de céleri rave, le sol est épuisé. C'est un produit vivant comme vous et moi. Donc, à nous de lui redonner confiance, à nous de le renourrir avec un bel engrais vert, une facilie, un trèfle, un sarrasin, pour que justement il puisse reprendre de la force. Ça, c'est intéressant parce que vous savez, vous avez beau avoir la meilleure semence de la terre, la meilleure graine de la terre. Si vous travaillez sur un sol qui est totalement appauvri, qui n'a pas été renourri, vous n'aurez pas un bon résultat. Ce sont 2 éléments, c'est une bonne graine et un sol en pleine forme.
Je voudrais vous faire écouter une archive de Roland Barthes à propos du langage de la nourriture. Elle est datée du 2 avril 1964. Écoutez Alain Passard.
La nourriture est, je crois, un langage par lequel nous nous informons mutuellement d'un certain nombre de choses. Par exemple, de notre statut social, de certains rites ou protocole d'hospitalité, de notre origine géographique, de certaines attitudes psychologiques, de valeurs morales, et même au fond de l'idée que nous pouvons nous faire du monde, eh bien tout cela, je crois, peut être signifié et est signifié par la nourriture que nous offrons et par celle que nous recevons. L'étude scientifique du langage alimentaire, selon des méthodes modernes, n'a pas encore été vraiment entreprise. Mais je crois que déjà nous pouvons pressentir que cette langue alimentaire, le jour où on l'étudiera, se révélera comme extrêmement riche et jetant une lumière nouvelle peut-être sur finalement ce qu'est l'homme en société. Si on voulait édifier, reconstituer cette langue alimentaire, qu'est-ce qu'il faudrait chercher ? Il faudrait d'abord chercher des oppositions d'aliments qui correspondent à des oppositions de situations. Par exemple, il est certain qu'il y a une sorte d'opposition signifiante entre le pain normal que nous consommons tous les jours et ce qu'on appelle le pain de mie. L'un renvoie à une situation ordinaire, tandis que l'autre à une situation plus cérémonieuse. On voit par là que, dans le système des Français en tout cas, le pain n'est pas un aliment directement signifiant et que pour trouver une signification, il faut en quelque sorte descendre à certaines catégories, certaines espèces de pain. Pour que le pain soit signifiant, eh bien, il faudrait alors se reporter à une sorte d'échelle internationale. Par exemple, entre les Chinois et les Français, il est certain que l'usage du pain devient un signe distinctif des Français.
Alors, beaucoup de choses dans cette archive, Alain Passard. On sait que vous ne travaillez que dans un seul restaurant, c'est le vôtre, c'est l'Arpège. C'est une décision que vous avez prise il y a fort longtemps. Ce n'est pas pour cela que vous ne voyagez pas. Si, vous voyagez, mais contrairement à d'autres chefs étoilés comme vous, vous refusez d'aller apposer votre signature à des grandes marques, à des grandes chaînes d'hôtels, mais vous voyagez quand même. Et ça, je trouve ça absolument incroyable et remarquable, parce que vous voyagez avec votre équipe restreinte, et vous allez voyager pour essayer de comprendre des saveurs, des odeurs, des associations, etc. Exactement comme un chercheur va à l'autre bout du monde trouver des choses pour nourrir son imaginaire.
Oui, je crois que c'est important. On est, nous sommes aujourd'hui ceinturés de très très belles cuisines dans le monde, que ce soit en Asie... le Maroc, très belle cuisine, vous voyez, en Europe bien sûr. Et je crois que c'est quand on est un grand chef, je crois que c'est important d'essayer justement de nourrir sa cuisine avec un regard. Bien sûr qu'il y a les saveurs, bien sûr qu'il y a les parfums, mais moi ce que j'aime, je dirais encore plus, c'est rentrer dans une cuisine et voir la main d'un chef chinois, la main d'un chef japonais. La main d'une femme dans la cuisine marocaine, c'est pour moi une source d'inspiration merveilleuse, parce que ben on enrichit un petit peu son savoir-faire à travers justement comme ça un visuel, la façon dont ils prennent les objets, la façon dont ils les posent, leur façon d'assaisonner, leur façon de cuire, leur façon de faire une sauce. C'est fabuleux. Il y a une richesse dans toutes ces cuisines du monde qui sont, je pense, pour un grand chef, important.
Oui, mais ces cuisines du monde, elles ont envahi l'imaginaire des chefs aussi, y compris de ceux qui sont étoilés. Et la cuisine du monde, exactement comme avant les musiques du monde, qui perdurent encore aujourd'hui, qui ont toujours beaucoup de succès, c'est tant mieux. Mais les cuisines du monde, la cuisine mondialisée, a pris de plus en plus d'espace, de place, d'importance à l'intérieur de cet art qu'est la cuisine.
Tout à fait. Je crois que la cuisine française s'est enrichie donc de saveurs de tous ces pays, de parfums et
régionaliste. Vous êtes résolument régionaliste et français avant tout, vous.
Moi, j'aime cette notion où on garde un petit peu, je dirais, nos saveurs et parce que j'adore. Préserver aussi le bilan carbone, hein, parce que tout ce qui vient également de l'extérieur, donc ça nécessite des transports. Et moi, bon, mon support, c'est mon potager, c'est mon jardin. Mes épices sont dans mon jardin avec le basilic, la coriandre, le cerfeuil, l'estragon, le romarin. J'assaisonne avec mes herbes et très honnêtement, ça me suffit amplement. J'aime cette notion de réduire, parce qu'automatiquement, si vous voulez, dans une saison, quand on respecte la nature et les saisons, dans une saison, il y a une vingtaine de saveurs. Et je joue avec. Ça, c'est intéressant de garder toujours, dire voilà, qu'est-ce qui se passe dans le jardin au mois de novembre? Qu'est-ce qui se passe dans le jardin au mois de mars?
Vous avez anticipé avant tout le monde, et vraiment comme un visionnaire, Alain Passard, ce qu'on appelle aujourd'hui le circuit court. Pour vous, il y a des circuits même très très courts, parce que tout ce que vous présentez, vous l'avez vu éclore, vous l'avez semé. Et on voit que de plus en plus de chefs adoptent maintenant ces circuits courts, et que ça devient une sorte de label d'authenticité et de garantie de ce qu'il y a dans les assiettes.
Absolument.
Pensez-vous que ça soit le seul moyen pour tenter de préserver cet art qu'est la cuisine, tout en maintenant la possibilité de ne pas porter atteinte à la nature?
Écoutez, je pense que ça passera par là. obligatoirement, ça passera pas par cette histoire.
Les chefs peuvent donner l'exemple.
Bien sûr.
Et les consommateurs dans leur cuisine vous suivre.
Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut plus mettre dans une casserole une carotte sans un passeport. Il faut que chaque chose...
Un passeport.
Une provenance. Il faut que derrière un navet, une betterave, une farine pour le pain, un beurre, il faut qu'il y ait une histoire derrière chaque chose. C'est important, on est dans le pays de l'artisanat. Quand vous posez, moi dans mon restaurant, quand je pose le beurre sur table ou le pain sur table, la farine a une histoire, le beurre a une histoire. Si je présente une assiette de légumes, il y a le savoir-faire de nos jardiniers. Il faut qu'il y ait un savoir-faire derrière chaque chose, c'est important. L'artisanat, c'est revaloriser la qualité de l'artisanat, la beauté du geste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le parfum d'un beurre. Sa saveur, sa texture, sa couleur. Il n'y a rien sans le travail d'un artisan. C'est important. C'est important de valoriser nos artisans. Nous sommes dans le pays de la gastronomie. Nous avons le terroir pour tous les beaux produits.
C'est pas vraiment fini, les animaux, pour vous, Alain Passard. Vous faites des petits flirts, hein.
C'est l'histoire,
ça va, ça vient, hein.
C'est l'histoire du passeport. J'ai eu la chance de rencontrer deux personnages merveilleux. Pascal Cosnet, qui fait une volaille qu'à 6 mois de basse-cour, élevée avec les céréales de la ferme, décoction pour la digestion des bêtes. Les bêtes sont dans des parcours herbeux sublimes. François Cerdenet, la baie du Mont-Saint-Michel. Les bêtes sont sorties tous les jours, pas de complément alimentaire, on est sur les prés salés. Quand il y a le passeport, je prends. Je veux qu'il y ait une histoire derrière chaque chose.
Alors, dans les milieux artistiques, intellectuels et plus spécialement littéraires, et particulièrement aux États-Unis, il y a des mouvements de contestation. Il y a évidemment des associations qui vont inspecter à juste titre, et on en parle souvent de ces scandales de l'abattage des animaux de manière absolument atroce. Mais dans le milieu intellectuel et artistique, ça fait quand même quelques années que certaines et certains se sont emparés de la cause animale, à la fois sur le plan historique, avec le merveilleux livre d'Elisabeth de Fontenay, La cause animale, la philosophie avec Derrida, mais aussi la littérature avec un écrivain très doué, que vous connaissez peut-être, américain, il s'appelle Jonathan Safran Foer, et il a publié un livre qui a fait beaucoup parler de lui, et récemment il est encore intervenu dans les grands journaux du monde entier pour parler du refus comme une éthique et comme une philosophie de la vie de ne plus manger d'animaux. Je vous propose de l'écouter, Jonathan Safran Foer, à propos de son livre « Faut-il manger les animaux ?»
En réalité, on n'a pas vraiment besoin d'une telle quantité. Cette quantité nous est superflue. Les Américains mangent 180 fois plus de poulet par personne qu'il y a 100 ans. C'est pas par besoin, c'est pas bon pour nous. Et puis en réalité, c'est pas franchement si bon que ça. En réalité, il s'agit davantage d'une coutume, d'une habitude. Habitude rendue obligatoire par ce secteur agroalimentaire qui est le nôtre aujourd'hui. Ces repas, on ne les partage pas en famille, on les mange avec les doigts en voiture, vous voyez. Et malheureusement, la France, réputée pour sa tradition culinaire gastronomique, suit l'exemple des États-Unis. Je suis en France, je vois des McDonald's partout. C'est guère différent des États-Unis, malheureusement, de ce point de vue-là. La réponse, c'est qu'il faut manger différemment. Mais en réalité, on n'a pas besoin de manger de façon radicalement nouvelle. Il faut manger à l'ancienne, comme nos parents.
Ben, manger comme nos parents, c'était manger quand même un peu de viande et même peut-être un peu trop, non,
oui,
Alain Passard?
Oui, je me souviens dans les années 60-70, effectivement, donc il y avait une présence du tissu animal pratiquement dans chaque repas.
Deux fois par jour.
Hein. Mais la qualité du produit passe effectivement par la qualité de l'élevage.
Oui, mais la radicalité de ces propos, notamment de Safran Foer, prouve qu'on a peut-être changé d'univers sensoriel. On a peut-être moins envie de consommer de la viande parce que les impératifs de l'agroécologie nous y conduisent, qu'on a envie d'être des citoyens du monde, avertis et concernés. Le goût, finalement, le goût que vous créez, vous, en tant que grand chef, Alain Passard, il est le fruit aussi d'une expérience sensorielle et culturelle. Alors est-ce que ce goût, à votre avis, est en train petit à petit d'évoluer, vous qui avez été un grand devancier ?
Je pense que la cuisine légumière est en train de trouver enfin sa place. C'est une cuisine qui a eu énormément de mal à percer parce que effectivement c'était le parent pauvre.
Un repas sans viande, c'était un repas de pauvre.
Exactement. Donc toujours considérer le légume comme la garniture. Et on s'aperçoit donc depuis maintenant près de 20 ans que l'on peut se régaler gustativement et olfactivement avec une très belle jardinière de légumes, avec un plat de saison, une betterave en croûte de sel, un oignon flambé, un céleri rave, rôti au four ou grillé. Il y a une multitude de recettes par rapport à cette cuisine légumière qui est fabuleuse. Il faut enfin que cette cuisine existe, elle a sa place, elle a le droit d'avoir sa place comme la cuisine de la mer.
Qu'allez-vous manger ce soir ?
Ah, je vais me faire des coquillages, des coques. Des coques avec un petit soupçon de cerfeuil, persil, et la petite pointe de curry de la grand-mère, bien sûr. J'adore les coquillages, c'est... Et peut-être quelques pâtes fraîches.
Il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et qui pourtant envahit tous les domaines à juste titre parce que les femmes commencent à parler et à s'exprimer. On en a beaucoup entendu parler dans le monde du cinéma, mais dans le monde de la cuisine, on n'en parle pas beaucoup. Votre vocabulaire, le vocabulaire qui appartient à votre discipline artistique, Alain Passard, est extrêmement guerrier. On parle de chef, il y a très peu de chefs, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup, chef avec deux F, E-S. Et il y a des brigades, on appelle ça des brigades. Et il semblerait que ce murmure, de plus en plus haut, qu'il y ait des formes de violence à l'intérieur des cuisines. Vous pensez que c'est vrai, tout ce qui commence à se murmurer ? C'est un univers assez macho ?
Écoutez, je pense que les grands chefs sont des êtres humains qui sont d'une grande élégance. À ma connaissance, je ne connais pas aujourd'hui, parmi mes confrères, j'ai pas eu de message comme quoi il y avait des violences dans les cuisines de mes confrères. Autrefois, c'était effectivement beaucoup plus violent, ouais. Moi, j'ai fait un apprentissage dans le début des années 70 et il y avait peut-être beaucoup plus de violence qu'aujourd'hui. Je pense que... j'ai confiance... dans la grande cuisine française et dans les grands chefs pour que notre métier ne soit pas abîmé.
Bah, vive les femmes alors, les femmes chefs, effectivement.
Ah, bah, les femmes chefs, nous, c'est ça chez nous à l'Arpège. On aime avoir la femme au fourneau. J'ai autour de moi des jeunes filles qui sont très douées et qui aiment ce métier plus que tout. Et on essaie d'avoir un vocabulaire très élégant. De leur parler avec des jolis mots, parce que on est tellement plus beau quand on parle avec un joli vocabulaire.
On sait comment vous allez dîner ce soir, Alain Passard, mais on ne sait pas comment va commencer votre journée dans votre potager et à qui allez-vous dire bonjour en premier.
En général, ce sont les jardiniers qui sont... Nous avons la chance d'avoir un premier jardinier, Sylvain, qui est un garçon merveilleux, qui est chef donc des deux jardins et du verger. Et nous avons une relation très, très forte, parce que ça fait 20 ans qu'il est à mes côtés. Il ne se passe rien sans leur travail. C'est ça qui est merveilleux. Ce métier de jardinier... est en train de revenir, du coup, avec toute cette cuisine légumière qui se remet en place, en train de revaloriser le métier de jardinier avec énormément d'élégance aussi, parce qu'il y a une créativité dans le potager qui est, comme en cuisine, assez troublante.
Merci beaucoup, Alain Passard.
Such as
Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Very Good Trip.